Ben, bonjour à tous. Je vais commencer par me présenter très brièvement. Et comme je vais vous parler du numérique, je vais me présenter en vous donnant des informations que vous auriez trouvées très facilement en tapant mon nom dans Google. Et puis après, je vais rentrer dans le vif du sujet. Je vais mettre peut-être quelques questions au milieu de la présentation, puis après à nouveau à la fin. Et puis, si jamais je suis trop bavard, peut-être David, si tu vois que le temps défile, n'hésite pas à me faire signe. J'ai organisé toute ma présentation en sous forme de caractéristiques. Là, c'est évidemment beaucoup trop petit. Ceux qui sont intéressés, je pourrais envoyer. Et tous les points que je marque, ils sont dedans. Donc, moi, je vais zoomer. Enfin, voilà. Mais s'il y en a que ça intéresse, en tout cas, je peux l'envoyer. Dans les slides, pardon. Tac, non, tant pis. Dans les slides, parfois, je mets des petites étiquettes en dessous, ici. Ça, c'est quand je m'appuie sur des auteurs qui ont écrit ou qui ont dit des choses. Parce qu'en fait, sur le numérique, moi, je me suis rendu compte qu'on entend un peu tout et son contraire. Que des fois, on dit, ah, mais ça, c'est complètement nouveau. Puis quelqu'un d'autre va dire, mais ça fait 30 ans qu'on l'avait constaté. Et donc, voilà, j'essaye, dans la mesure du possible, de ne pas parler que de ma propre expérience. Mais aussi de dire, ben voilà, il y a des gens qui sont beaucoup plus experts que moi qui ont analysé ces choses. Alors, pour me présenter, donc j'ai été prof pendant 10 ans. Si vous allez sur Internet, vous trouverez sans problème mon mail, le site web que j'avais fait pour mes classes, ce que j'ai mis dans l'ENT, que j'ai fait des ressources, que j'ai consommé des ressources. Il y a des animations que j'ai faites qui n'avaient encore sur le net. Évidemment, en tant que prof, j'ai utilisé Google, j'ai fait des recherches, j'ai utilisé des PowerPoint, donc vous les trouverez aussi si ça vous intéresse, qui n'ont rien à voir parfois avec l'enseignement, mais en tout cas, si vous tapez mon nom dans Google, on trouverait toutes ces informations. Au niveau professionnel, maintenant, j'ai rejoint l'administration. Après un très bref passage au ministère, j'ai rejoint le conseil général et je suis chargé de mettre en place la politique numérique du collège, enfin du département pour l'ensemble des collèges. Donc il y a 50 collèges et c'est moi qui dois décider quels ordinateurs on va acheter, si on met des TBI ou pas, des boîtiers, des tablettes. Enfin bon, enfin, toutes ces questions, elles arrivent chez moi. Et là, j'utilise d'autres outils numériques. Donc j'ai un compte LinkedIn, mais j'ai pas de compte Facebook. Donc, si vous trouvez pour Michael Tiens Point un compte Facebook, sachez que ce n'est pas le mien, mais ce sera très facile parce que comme il y a une photo, vous verrez que ce n'est pas moi. Voilà. Donc là, il n'y a pas trop de risques. Et à titre personnel, ben, je participe à plein de forums, donc un forum sur Ubuntu, le violoncelle.com, plein de choses comme ça. J'ai participé aussi à un jeu qui s'appelle Travian. Donc, j'ai joué pas mal en ligne. Voilà, puis en septembre, il y a un truc qu'on appelle la rentrée. Et j'ai dû arrêter, voilà, parce que c'était trop chronophage. Et puis, j'ai tout un tas de comptes vides, c'est-à-dire des comptes où je mets rien du tout, mais je m'en sers que pour accéder à d'autres contenus. Par exemple, j'ai un compte Flickr qui me permet de télécharger des photos d'autres gens, mais moi, j'ai jamais mis aucune photo sur Flickr. Voilà un petit peu pour vous présenter, voilà, ma vie, mon identité numérique. Si vous voulez en savoir plus sur moi, bah, faudra attendre ce midi, peut-être, ou d'autres circonstances. Pour présenter très rapidement la problématique, et je vais pas m'étendre là-dessus, mais je voulais citer une étude qui s'appelle EU Kids Online, où ils ont interrogé avec des échantillons aléatoires dans toute l'Europe plusieurs milliers d'élèves de 9 à 16 ans. Et vraiment, le message, enfin le résultat, est plein d'espoir. C'est-à-dire qu'à la fois, ils disent, bah oui, il y a 21% des 11-16 ans qui ont été confrontés à des messages dangereux sur Internet. Mais finalement, c'est tous des enfants qui ont identifié que ce message était dangereux. Donc c'est 1 sur 5. Mais ils n'ont pas été plus perturbés. Ils ont su réagir, ils ont su en parler avec leurs parents, etc. L'étude montre aussi que globalement, ils ont réussi à paramétrer leur compte Facebook, à trouver un équilibre entre le public et le privé. Alors évidemment avec des erreurs, parce que ce sont des enfants. Mais en tout cas, c'est un message plutôt plein d'espoir, qui contraste avec ce qu'on lit parfois dans la presse, qui va plutôt ressortir des histoires morbides. Voilà, un tel a rencontré un tel via Facebook et ça a mal fini, quoi. Par exemple, pour les contacts avec des inconnus, il y a 30% des 9-16 ans qui sont en contact online avec des personnes qu'ils ne connaissent pas. Donc, c'est une personne sur trois, un jeune sur trois. Les contacts IRL, alors IRL, ça veut dire in real life. mais en fait, ça sortait de l'écran quand je l'écrivais complètement. Donc là, on n'est qu'à 9%. Donc quand les gens rencontrent des inconnus sur Internet, il y en a très peu qui vont aller jusqu'à un contact réel. Et alors, dans l'étude, ils disent que ce contact réel a été perturbant que dans 1% des cas. C'est quelque chose de finalement assez marginal. Ouais. Donc voilà, si jamais le sujet vous intéresse, UIKit Online, il y a vraiment tout un tas de données. Alors ça se présente sous forme de graphique comme ça. Donc là à droite, par exemple, on voit que 80% des enfants ne sont pas d'accord avec l'affirmation « j'en sais plus sur Internet que mes parents ». Alors que globalement, on a tendance à dire que les enfants, ils en savent plus et ils sont experts dans le numérique. C'est pas vrai, ils ne se sentent pas comme ça, en tout cas. À gauche, pardon, c'est un questionnaire sur le paramétrage de leur blog ou de leur compte Facebook. Est-ce que c'est privé, public ou pas? Donc globalement, hein, 34 plus 44%, donc on est près de 80% d'enfants qui ont fait l'effort de paramétrer leur compte. Ouais, donc ils ne mettent pas tout sur Internet, contrairement à ce qu'on peut parfois imaginer. Ce que je ne vais pas dire, que je trouvais ça aussi important, je ne vais pas faire une leçon de morale à l'attention d'Internet en disant Internet c'est dangereux, etc. Je ne vais pas lister les dangers d'Internet. Ça, je pense qu'on en a tous des exemples, les médias s'en font largement l'écho. Mais à contrario, je ne vais pas non plus faire une liste d'astuces pour enseigner avec le numérique. Il y a un site du ministère qui fait ça très bien, qui dit aux enseignants tout ce qu'ils devraient faire. Bon, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Je ne vais pas non plus faire un catalogue des outils web, ni un plaidoyer pour le numérique à l'école. Et je vais essayer de ni angéliser, ni diaboliser. Alors pour faire ça, je vais essayer de rester vraiment sur des constats qui ont été faits par des chercheurs, des spécialistes, et je vais vous les présenter selon quatre chapitres. Donc déjà, le numérique, qu'est-ce que ça a changé dans le rapport à soi? Comment l'élève avec le numérique construit son identité? Et qu'est-ce qui change par rapport à avant? Et est-ce que ça change? Qu'est-ce qui change dans le rapport aux autres? Donc rapport dans la classe, rapport vis-à-vis de l'enseignant, le rapport au savoir et finalement le rapport à l'avenir. Et donc dans ce que j'affiche, quand il y a écrit une petite étiquette jaune, ben, en fait je donne le nom de la personne qui a fait les travaux là-dessus. Donc vous taperez ça dans Google et puis vous aurez soit des conférences, des articles, des bouquins, ce que vous voulez. Donc je vais commencer. Donc sur le rapport à soi, j'ai prévu différentes parties. Et j'ai commencé par une provocation. On dit parfois je pense donc je suis. Après les matérialistes ont dit j'agis donc j'existe. Et maintenant parfois c'est j'ai un blog donc. Enfin, et alors j'ai un blog donc je suis. C'est pas complètement sûr. Mais en tout cas, on se rend compte que beaucoup de jeunes ont envie d'être présents sur la toile, au travers de différents outils que je montrerai très rapidement tout à l'heure. Et alors, Serge Tisseron et Rouquette ont fait des études très précises sur cette construction d'identité et ils se sont rendus compte qu'il y avait un besoin, alors pas d'intimité, mais alors ils appellent ça l'extimité, un besoin de montrer au grand public certaines parties de la vie privée dans l'objectif d'avoir des approbations, d'avoir des gens qui vont approuver, dire oui, c'est bien, continue, ou j'aime sur Facebook. Donc c'est un besoin qui est nouveau. Et quand on regarde l'explosion des blogs d'adolescents, souvent en plus des adolescents ont deux ou trois blogs, parce qu'il y a un blog où ils sont tristes, un blog où ils sont gothiques et un blog où ils sont joyeux. Et alors après, en fonction des réactions sur tel ou tel blog, ils vont plus l'alimenter. Et donc le constat qui a été fait, et ça c'était un petit peu intéressant et inquiétant, c'est que finalement la popularité d'un blog ou d'une photo sur un blog ou d'un billet va entraîner l'adolescent à se caricaturer lui-même et à développer plus certains traits de personnalité. Donc ça c'est alors il s'agit évidemment des adolescents qui ont un blog. Tous les adolescents n'ont pas forcément un blog. Mais en tout cas, ils ont remarqué qu'il y avait un espèce d'échange entre la popularité d'une photo. Si je montre une photo où je suis habillé en gothique, maquillé d'une certaine façon, ben, j'ai plus de réactions que si je montre une photo où je suis triste avec mon chien. Voilà. Donc du coup, ben, on a tendance à alimenter plus un certain type de contenu. J'avance et puis quand j'aurai fini mes deux chapitres, rapport à soi, rapport aux autres, ben on pourra échanger un petit peu et puis après je continue. Ouais. Ça, c'est un autre travail que moi je trouve très intéressant de Dominique Cardon, qui a travaillé sur le design de la visibilité. Et alors, moi, j'ai vraiment découvert ça. Il a classé tout un tas d'outils, donc Facebook, Twitter, LinkedIn, Flickr, MySpace, Skyblock, etc., selon deux axes. Un axe qui va de ce que je suis à ce que je fais, et un autre qui est de ce qui est réel à ce que je projette. Et il a mis les outils comme ça. Et il dit par exemple, ben, quand on a un compte sur YouTube, en fait, ce qu'on met en avant, c'est des choses qu'on a faites. J'ai fait une vidéo, j'ai chanté, j'ai produit quelque chose, mais en fait, ça n'est pas forcément représentatif de ce que je suis. Quand par contre, on met des informations sur Mythique, on est beaucoup plus sur des informations réelles et sur des choses qui correspondent à mon identité. Quand par contre on fait des jeux en ligne, alors World of Warcraft, mais moi j'avais joué à Travian, on est tout à fait dans une autre thématique. Moi quand je jouais à Travian, j'avais créé un personnage qui s'appelait Vieux Schnock, parce que je me sentais vraiment dépassé par la technologie. J'avais trouvé un Indien, une photo noire et blanc, et j'avais mis des yeux bleus très pétillants. Et donc c'était mon personnage. Et chaque fois que j'intervenais dans un forum ou dans le jeu, à chaque fois, j'endossais ce personnage et je jouais un rôle qui était complètement différent. Et un jeune qui va passer des heures dans World of Warcraft, c'est pas du tout la même implication que s'il passe des heures sur Mythique ou dans son live journal. C'est pas du tout la même chose. Et donc en réfléchissant, il a décidé d'appeler ça, voilà, ces groupes-là, c'est un paravent, ici un clair-obscur, et il regarde en fait quels sont les outils qu'on utilise. Alors je ne vais pas plus m'étaler dessus, mais donc il a cinq catégories, post-it, phare, lanterne, clair-obscur et paravent, et ça correspond à des besoins différents. Dans le clair-obscur, on va raconter des choses sur soi, mais c'est un petit peu de la projection. Mais en fait, c'est souvent ouvert sur Internet. Mais si on n'a pas les codes, si on n'a pas le nom du blog, en fait, on ne trouve pas. Un ado qui a un blog, quand on tape son nom dans Google, on tombe pas forcément sur son blog. Souvent, c'est le blog pour ses amis. Il n'y a que quelques personnes qui vont vraiment agir dessus. Et comme vous voyez ici, Facebook, il est vraiment au centre. Et en fait, la difficulté, c'est que souvent, Facebook, il est utilisé pour faire plein de choses. Et alors on se retrouve à mettre tout dessus et on ne se rend pas compte qu'en fait on aurait mieux fait d'utiliser un outil qui se serait situé par là ou qui se serait situé par là selon ce qu'on avait envie de faire. D'accord? Donc voilà, simplement cette diapo pour montrer que les outils sont très très variés et que ça ne correspond pas à des besoins différents, enfin que ça ne correspond pas à des besoins identiques. Et que bah, là où l'adolescent se retrouve parfois un peu coincé, c'est quand tu utilises le mauvais outil pour le mauvais besoin de communication. Et du coup, il va mettre des contenus sur Facebook, alors qu'il aurait mieux fait de les mettre sur Flickr en partageant que à ses amis. Mais voilà, donc ça c'est un petit peu une réflexion qui est en cours. Comment est-ce qu'on peut, nous, savoir bah, tous ces outils qui existent et les situer? Toujours dans le rapport à soi. Donc c'est Antonio Casilli qui a beaucoup travaillé là-dessus. Il dit, les jeunes, ils ont envie de mener une vie dense, une vie riche, riche en émotions notamment. Et du coup, cette densité, elle se traduit par une densité relationnelle. Et ils cherchent à être en contact avec plein de monde, et si possible en même temps. Alors du coup, ça va influencer le rapport aux autres. Donc c'est le chapitre suivant. Il y a des travaux qui ont été faits par Dunbar, qui ont été repris pas mal par la suite. Et Dunbar, il a dit, mais en fait, un être humain, il est capable de gérer entre 150 et 300 relations, mais au-delà, il n'est pas possible. Au-delà, il ne saura pas faire. Et il n'arrivera pas à temps, il n'arrivera pas à gérer des obligations sociales avec plus de 150 personnes à la fois. Et c'est effectivement ce qu'on constate sur Twitter, sur Facebook, quand on commence à avoir 500 amis, en fait, on ne sait plus vraiment qui est le 500e. Donc, il y a quand même des choses qui sont constantes, mais dans cette recherche de densité relationnelle, ben souvent on essaie d'avoir un blog, on essaie d'avoir des amis, on essaie d'avoir plein de gens, et ces gens-là vont solliciter. Et alors, du coup, quand mon portable sonne, alors là je l'ai mis en mode éteint. Mais dès que le portable sonne, on se dit, c'est peut-être quelqu'un de très important qui a un truc très, très chouette à me dire. Et la tentation de décrocher, même si on est en cours, même si jamais on est en discussion, etc., elle devient très, très forte. Parce qu'on a envie de vivre richement. Et chaque sollicitation, chaque fois que le téléphone vibre, c'est peut-être source d'une excitation complètement nouvelle. Donc il y a la quête de nouveauté. Alors Dominique Angers, c'est quelqu'un qui a écrit ce livre-là, alors que j'ai trouvé très intéressant. C'est la méditation biblique à l'ère du numérique. J'ai trouvé vraiment très utile. Alors c'est pas un livre qui s'intéresse beaucoup aux technologies numériques, mais il dit bah, finalement à l'ère du numérique. Il y a quand même un contexte qui n'est pas toujours favorable à la méditation, mais il y a aussi des outils qui, au contraire, peuvent être favorables à la méditation. Et donc, il y a des réflexions qui sont très intéressantes à ce sujet. Vivre densément pour se réaliser, c'est un peu ce que je disais. Et alors, Serge Tisseron, il a beaucoup travaillé sur la notion d'addiction et sur la notion de gens qui vont sur Internet de façon compulsive. Et sur le fait nous, en tant qu'adultes, on trouve ça rapidement excessif. Est-ce que ça l'est? Est-ce que c'est problématique? Oui. Est-ce que c'est compulsif? C'est une question plus subjective. Par contre, sur le plan médical, il ne parle pas d'addiction. Il dit qu'il n'y a pas de mécanisme comme on peut avoir avec de la drogue ou avec de l'alcool. Il n'y a pas de mécanisme chimique au niveau du corps, physiologique, qui font de l'addiction chez les jeunes. Hein, je suis toujours sur les jeunes. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Si vous tapez Serge Tisseron, addiction aux médias dans Google, il montre bien en fait comment un jeune qui va passer beaucoup de temps sur Internet n'est pas forcément soumis à une addiction, parce qu'en fait, sur Internet, il va faire plein de choses différentes. Il va passer une heure à jouer. Donc là, c'est vraiment pour s'évader. Il va passer une autre heure sur Flickr à faire du traitement d'image pour son avatar et il va discuter. Et puis il va passer encore du temps sur son blog ou sur un forum, je ne sais plus où ils sont, pour essayer de faire de la médiation entre deux personnes de sa guilde, donc de son équipe dans World of Warcraft, qui sont en train de se disputer, par exemple. Et du coup, nous, on a l'impression qu'il joue, mais en réalité, il fait plusieurs choses et il y a des choses intéressantes, il y a d'autres choses qui sont excessives. Derniers éléments sur le rapport à soi, j'ai mis les difficultés de concentration. Alors, c'est quelque chose que nous, on constate beaucoup quand on est face à des élèves. Il y a le vagabondage des pensées et surtout la capacité qui se perd un petit peu à décider, à mettre de la volonté derrière un objet sur lequel on se concentre. Et je vous montrerai tout à l'heure une copie d'écran de mon téléphone. J'ai une application où je peux lire des versets bibliques. C'est très pratique, mais c'était gratuit. Et donc en dessous, j'ai une barre avec des pubs qui défilent. Oui. Ça nécessite une volonté de concentration de dire « je ne vais pas regarder la pub, je vais juste lire Proverbe 9, verset 3 et faire abstraction ». Mais pour des élèves, c'est parfois compliqué. Ils ont tellement l'habitude de se concentrer sur des choses qui viennent chercher leur concentration que se concentrer sur un livre qui ne bouge pas ou sur un prof qui reste statique. Donc en réalité, si jamais j'étais filmé, il y aurait une caméra là, une caméra là, une caméra là et vous auriez à l'écran toutes les 3 secondes, une autre vision de moi avec le son qui reste constant. Et de temps en temps, comme je ne suis pas très photogénique, on verrait le public, on verrait quelqu'un qui écrit. Ouais, parce que il faut changer les points de vue. Moi, je ne fais pas ça, je gesticule pour essayer d'attirer votre attention. Mais c'est beaucoup moins efficace que les technologies modernes. Et ce qui change aussi avec Internet, c'est l'idée qu'on veut un service qui est personnalisé. Alors, Google l'a fait, Amazon l'a fait, Facebook aussi. Les pubs sont personnalisées. Quand je fais une recherche dans Google, il y a 5 ans, donc je fais une recherche dans Google sur un ordinateur que je viens d'installer, il y a 50 critères sur l'endroit où je suis assis, mon adresse IP, ma langue, etc., qui servent à alimenter la recherche. Et si jamais je me suis connecté avant à mon compte Google ou à mon compte YouTube, j'ai plus de 250 éléments de ma vie numérique qui lui permettent de changer la recherche. Donc, on est dans un service qui est vraiment personnalisé, presque à notre insu. Mais du coup, on a des élèves aussi qui arrivent en classe en disant « moi, je veux un service personnalisé ». parce qu'ils sont dans cette logique-là, qui est parfois aussi relayée par l'institution, qui communique beaucoup sur la différenciation pédagogique, et c'est compliqué. Alors, pour creuser, j'ai cité la Khan Academy. La Khan Academy, c'est quelqu'un aux États-Unis qui a commencé à faire des vidéos pour les envoyer à ses cousins. Et ses cousins lui ont dit, écoute, nous, on préfère t'avoir en vidéo qu'en vrai. Alors, il s'est dit, ah bon? Et ils ont dit oui, parce que quand c'est en vidéo, quand on ne comprend pas, on met sur pause, on revient, quand on s'ennuie, on accélère, etc. Alors que quand tu es là en vrai, que tu nous expliques sur Skype, on est gêné. On ne peut pas t'arrêter aussi facilement, etc. Et il a continué cette idée, et maintenant, il y a 20 000 vidéos. 20 000 vidéos qui sont en ligne, tout le programme de maths, physique, primaire, collège est couvert, et ça a été scénarisé. Et ils sont en train de mettre en place des classes inversées où un élève, il regarde les vidéos chez lui et quand il arrive en classe, le prof sait quelle vidéo il a regardé, à quel moment la vidéo a été mise sur pause, est-ce qu'il a réussi les exercices ou pas, combien d'exercices il a fait, etc. Et du coup, le prof, il fait un service personnalisé. Il dit, écoute, toi, tu as compris ce que tu peux expliquer à Mathieu qui n'a pas compris. Vous trois, vous venez parce que vous butez tous sur le même endroit, je vais vous expliquer ensemble. On est vraiment sur un service pédagogique qui change complètement et les MOOC sont un peu dans le même esprit. Les MOOC, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des cours qui sont massivement ouverts et online. Et en fait, des universités aux États-Unis, puisque c'est là que le mouvement a commencé, qui vendaient leurs cours très très cher, des milliers de dollars, ont commencé à dire, mais en fait, notre cours maintenant, on va l'ouvrir au monde entier, n'importe qui peut s'inscrire, ouais, et ils continuent à avoir des étudiants qui payent pour avoir le prof en vrai. Ouais. Mais du coup, mais le matériau est complètement en ligne, complètement didactisé. Et alors, ces deux choses-là, ça peut paraître loin, parce que c'est à l'autre bout de la planète. En réalité, les MOOC, on est en train de le faire en France au niveau du primaire avec les CNDP, qui produisent énormément de ressources. Dans le cadre du service public du numérique, il y a Paris 12 qui est en train de lancer un grand plan MOOC, Lille a fait aussi un grand MOOC sur la gestion de projet, etc. Et ils ont besoin de récupérer des étudiants parce que sinon il y a une fuite. Et quand on fait un MOOC en France, on a au départ 3 000-4 000 inscrits et il va y avoir 6 à 700 personnes qui vont vraiment regarder tous les cours, 300 personnes qui arrivent au bout. Et si jamais on avait fait un vrai cours gestion de projet, on aurait eu 20 personnes devant un prof. Et sur les 6 à 800 personnes qui ont suivi le cours, il y en a la moitié qui sont dans des pays qui ne sont pas du tout, donc des pays francophones, mais pas du tout en France. Et qui sont venus là et qui bossent en pareil, etc. Et alors, ce qui est vraiment nouveau, j'ai mis l'analyse, mais en fait, c'est analyse des résultats. Ce qui est nouveau avec la Khan Academy et avec les MOOC, c'est que maintenant, on met un cours en ligne, il y a 3 000 personnes, et vous savez, pour chaque personne, qu'est-ce qu'il a su faire, qu'est-ce qu'il n'a pas su faire, à quel moment il a décroché, à quel moment il a mis la vidéo sur pause, etc., etc. Et donc, du coup, il y a une analyse des processus d'apprentissage qui fonctionne avec de nouveaux outils. Moi, quand je mets une vidéo en classe, j'en ai mis pas mal. Aujourd'hui, j'en ai pas prévu. Je ne sais pas à quel moment l'élève il décroche au niveau de son attention. Ouais. Mais avec des outils comme ça, bah, comme tout est informatisé et qu'en plus on a un très grand nombre de connexions, on arrive à avoir une vraie finesse dans les rapports. Je regarde juste l'heure. Ok, donc je suis trop bavard. Sur le rapport aux autres, on a déjà esquissé qu'il y avait des choses qui changeaient, mais Serge Tisseron, il a fait des constats très intéressants sur l'intégration de règles relatives. Il dit, un enfant, quand il est dans un blog, il a certaines règles de politesse. Quand il va sur un forum, c'est d'autres règles de politesse. Quand il envoie un SMS, il y a d'autres règles de politesse. Moi, au départ, dans mes SMS, je mettais bonjour. Un SMS, il est limité à 160 caractères. Bonjour, virgule, entrée. Ça en consomme 5 ou 6%. Et j'étais toujours coincé, moi. Donc, du coup, maintenant, je mets BJR quand je veux être poli, ou rien, quoi, quand les gens me connaissent. Et puis, je signais cordialement Mickaël, mais mes SMS étaient trop longs. Donc, du coup, bah, j'ai changé de façon de faire. Et quand j'envoie des SMS, je mets juste le message. Et si je me dis, ça se trouve, je ne suis pas dans son répertoire, donc je vais signer. Mais si je suis sûr que je suis dans ses contacts, je signe plus. Et donc, du coup, le constat, c'est qu'on a des règles qui changent à chaque fois. Et l'élève, il a tendance à venir en classe et à se dire, mais je ne sais pas quelles sont les règles de cet espace-là. Et donc, il faut sans cesse rappeler les règles parce que bah, d'un prof à l'autre, d'un espace à l'autre, d'un blog à l'autre, d'un forum à l'autre, les règles sont différentes, y compris les règles de politesse. Alors que nous, on trouve normal qu'un élève dise bonjour, mais en fait, dans les SMS, ça n'est pas automatique, dans les mails, oui, sur le forum, ça dépend, etc. Donc, il y a un clivage au niveau des règles qui sont contingents aux espaces dans lesquels ils évoluent. On parle beaucoup de la culture participative et collaborative chez les jeunes. J'ai mis quoi de neuf parce que je ne suis pas certain que ce soit vraiment une nouveauté. Je pense qu'on en parle beaucoup parce qu'en fait, c'est peu valorisé par l'institution et c'est rarement évalué. C'est-à-dire que bah, pour avoir une bonne note en maths, il vaut mieux être bon en maths qu'être un élève sympathique. Voilà. Et pourtant, bah, y a d'autres cas où ça sert d'être sympathique, de savoir faire du travail collaboratif, mais voilà, l'institution le valorise peu pour l'instant, même s'il y a des discours qui arrivent. Mais tout ce qui est culture participative et collaborative, c'est en train d'arriver. Un autre constat que j'ai trouvé moi très intéressant, c'est Lydie René qui a fait une thèse là-dessus. Elle a constaté que la communication non verbale manquait quand on était dans des échanges numériques. Et que du coup, souvent les étudiants en licence de e-learning, donc c'est un endroit particulier où elle a fait l'étude, étaient plus vite décrocheurs et les profs ne s'en rendaient pas compte. Parce que quand un élève va voir un prof et dit « Monsieur, je comprends rien », le prof, il arrive à discerner dans le regard, dans la façon de faire, si jamais il n'a vraiment pas compris, qu'il est en train de s'arracher les cheveux parce qu'il ne sait plus où il va, ou si jamais, en fait, il a juste envie qu'on lui réexplique un petit peu. Voilà. Et ça, quand c'est par le biais du numérique, c'est pas pareil. Et les smileys, ça ne suffit pas à rendre toute la palette d'émotions qu'on peut avoir. Un dernier concept qui est en train de changer, c'est l'érosion de l'autorité institutionnelle. On se méfie du sage, on se méfie de l'autorité du père, on se méfie du médecin, etc. Et par contre, le développement de l'autorité de proximité. C'est-à-dire qu'on aime bien avoir des infos de gens qui nous ressemblent. Et donc, ça va renvoyer vers tout ce qui est apprentissage par les pairs. Des fois, on préfère demander une explication sur le théorème de Pythagore à tel copain, même si on sait qu'il est nul en maths, plutôt qu'à un autre qui a tout compris, mais il a des lunettes, il est blond et il ne nous plaît pas. Plutôt qu'au prof, parce que le prof, non, mais il va encore se faire un film, quoi. Donc, voilà un petit peu des pistes de réaction qu'on peut avoir. Donc, le rapport à soi et le rapport aux autres. Alors, j'ai choisi d'abord le rapport à soi et puis le rapport aux autres, même si souvent, on a tendance à regarder le numérique d'abord dans le rapport aux autres. Mais en fait, les deux s'alimentent. Les deux s'alimentent beaucoup. Et on l'a vu notamment tout à l'heure par le biais des blogs. Donc là, il me reste 10 minutes pour la suite, donc je vais aller beaucoup plus vite. Est-ce qu'il y a une question sur ces trucs-là, ou sinon on la garde pour tout à l'heure?
C'est-à-dire que ouais. T'as pas développé en bas de la première slide,
ouais.
Que ça change dans nos relations avec les élèves. Il y avait une question tout en bas.
Oui, tout à fait. J'y reviendrai au moment de la conclusion. mais effectivement, alors, je peux difficilement répondre pour tout le monde. Parce que bah, si je suis prof dans le primaire ou prof en classe prépa, bah, les changements sont quand même différents. Mais j'aborderai ça vers la fin. Donc, quelque chose qui est encore plus nouveau, je pense, c'est les variations sur le rapport au savoir. Donc, j'ai mis l'illusion d'avoir accès à tout. Alors moi, j'y ai cru au départ, mais maintenant, je vois que ça ne marche plus du tout. Parce que des fois, il y a des contenus, je me souviens que j'avais vu sur Internet, je tape les mots-clés que j'avais tapés à l'époque, et Google ne m'envoie plus du tout la même page, et j'ai la flemme d'aller jusqu'à la 3e ou 4e page, donc je perds quand même de l'information sur Internet. Il y a beaucoup, mais tout n'est pas forcément visible. Il y a aussi quelque chose que Dominique Angers, donc dans le bouquin, rappelle, c'est qu'il y a une forme de complaisance dans le simple accès à l'information. Et accéder à un verset biblique, ce n'est pas pareil que méditer. Et c'est pareil quel que soit le domaine. Accéder à une citation de Pascal, ce n'est pas pareil que la comprendre, que l'analyser, que comparer, etc. Cependant, alors ça je l'ai mis, je pense que c'est vraiment important, les programmes renforcent actuellement, jusqu'à la fin du collège, cette complaisance dans l'accès à l'information. Moi, je vois beaucoup en primaire, là, je m'appuie un peu sur l'expérience de mes propres enfants, mais très souvent, quand on leur pose des questions, simplement en restituant un savoir qu'on fait copier-coller sur un Wikipédia, ça suffit. On va demander où est la Tour Eiffel. Bon, ben, Tour Eiffel, Wikipédia dit où c'est à Paris, ok, c'est réglé. Donc on est sur ça, on est peu sur de l'analyse. Et moins il y a de compétences d'analyse, plus on renforce l'illusion qu'il suffisait d'avoir accès au savoir et que ça suffisait. Que c'était autoportant, l'accès au savoir. Et donc, Serge Tisseron, il dit, mais en fait, dès le CM1, il faut apprendre à des élèves à confronter. Il faut leur donner des recherches différentes sur Internet. Et après, dire, mais pourquoi vous n'avez pas trouvé la même chose, faire des débats, etc. Pour justement créer ces autres compétences. Pour ce qui est du lycée et du supérieur, Michel Serres part de la fin de la présomption d'incompétence. Et dit, il est de plus en plus fréquent qu'en fin de cours, on dise, bon ben voilà, on a fait tel chapitre, la fois prochaine, je parlerai de ça et de ça. Puis un élève, il sort son téléphone, il tape ça dans Google et il va lire un ou deux articles sur le sujet. Ouais. Alors, quand il arrive en cours, l'élève, il a l'impression d'avoir un peu anticipé, c'est très bien d'ailleurs, il a l'impression d'avoir compris un peu des trucs, mais par contre, il n'a pas du tout le recul que l'enseignant a sur le sujet qu'il va traiter. N'empêche que le prof ne peut pas non plus faire comme si jamais les élèves ne savaient rien sur ce sujet. Et c'est particulièrement vrai dans le supérieur, entre les élèves qui sont un peu motivés, qui vont toujours essayer d'anticiper aussi pour créer un avantage, peut-être quand ils poseront la petite question au prof, monsieur, j'ai lu un article justement de cet auteur où il dit que, etc., qu'est-ce que vous pensez dans ce contexte actuel, machin. Hein, mais du coup, ça crée des décalages, alors qu'il y a 20 ans en arrière, quand un prof attaquait son sujet, il était quasiment sûr que personne ne savait de quoi il allait parler. Bon, alors après, chacun a des classes différentes, ça c'est certain. Et je voudrais aussi parler des filter bubbles. Alors ça, c'est Élisée Pariser qui a parlé de ça. Et il dit, Google, quand il vous renvoie une recherche, il utilise plein de critères et il paramètre la page. Et alors, il a fait une expérience, il a demandé par mail à plein de copains aux États-Unis d'envoyer une copie d'écran de la première recherche dans Google quand il tape Égypte. Il s'est rendu compte que ce n'est pas du tout la même chose. Et que tel copain qui était plus dans la politique avait certains liens et que tel autre avait autre chose, avait plus des trucs d'actualité, etc. Et en fait, il dit que Google crée une espèce de bulle, vous êtes dedans, et il vous montre à voir certains sites, mais vous ne savez pas comment ces sites ont été choisis. D'accord ? Et là, c'est pareil. Si jamais dans Google, je tape orientation seconde, il est possible qu'il propose à l'enfant certains liens qui sont en rapport avec son historique de navigation depuis un mois et qui vont du coup influencer ses choix d'orientation complètement à son insu. C'est possible. C'est possible. Ouais. On ne sait pas, parce qu'il y a quelque chose de très obscur. Cette espèce de frontière-là, on ne sait pas du tout comment elle est gérée. On ne sait pas. Voilà. Donc là, c'est une question. Je n'ai pas de réponse pour le moment. Alors, je continue rapidement sur le rapport aux autres. Donc, les jeunes cherchent à apprendre plutôt, en faisant plutôt qu'en réfléchissant. C'est un constat qui date de 1916. On donnait une notice avec un téléphone à un gamin. Enfin, à l'époque, ce n'était pas un téléphone, mais c'était autre chose. Et évidemment, il appuyait d'abord sur les boutons avant d'ouvrir la notice. Voilà. J'ai aussi cette tendance. Après, il y a un certain nombre de choses qu'on reçoit sans notice. Voilà. Donc, du coup, on n'a pas le choix. Oh, pardon. Les jeunes aiment bien apprendre par les pairs. C'est pareil, c'est quelque chose qu'on sait depuis très longtemps. Et les jeunes considèrent, eux, comme équivalent ce qu'ils ont appris à l'école et ce qu'ils ont appris en faisant, en expérimentant, etc. Alors que l'institution a tendance à survaloriser ce qui a été appris dans le cadre scolaire et à dévaloriser des compétences qui auraient été apprises par ailleurs. Ouais. Alors là-dessus, bon, dès qu'on tape les compétences socle commun, on trouve tout un tas d'exemples sur ces choses-là. Un élément que je trouve très important aussi, qui rejoint un peu l'idée de la bulle, c'est que quand je vais sur Internet, j'ai l'impression que tout est accessible, que je vais avoir accès à tous les savoirs du monde. Sauf que du coup, ça fait trop. On n'arrive pas à tout gérer. Du coup, on est obligé de se recentrer sur quelque chose. Et le critère qui est majoritairement rencontré, c'est un critère de ressemblance. Et du coup, là où on pensait que Internet était un endroit où on avait tous les avis du monde, on voit que les gens, ils se ressentent sur un comportement communautariste. Je vais aller voir l'avis de la personne qui rédige un blog avec laquelle je me sens bien. Ouais. Parce que c'est vachement consommateur d'énergie. Si jamais moi je veux, chaque fois qu'il y a une information sur TF1, aller aussi voir sur le site de Libération, sur CNN, pour voir les avis internationaux, je m'en sors pas. Donc je choisis des gens dans qui j'ai confiance. J'ai confiance quand il y a une ressemblance, quand je partage un imaginaire. Et du coup, je vais tout le temps sur le même site pour les actualités. Et les élèves, ils ont aussi cette tendance pour tout un tas de recherches. Le raisonnement par image, plutôt que des raisonnements linéaires avec des articulations logiques, c'est aussi quelque chose qu'on a beaucoup. Un site internet, il est rarement chronologique. Généralement, il y a 4 ou 5 images et on va dans le désordre. Et vous remarquerez que moi, ma présentation, vous pouvez la prendre dans n'importe quel ordre. J'ai fait très peu d'articulations de l'un vers l'autre. Le multitasking, c'est le fait de travailler sur plusieurs tâches à la fois et de gérer plusieurs connaissances, plusieurs choses en même temps. Et finalement, un savoir, c'est une sollicitation parmi d'autres. Alors, la Babylone de l'information, Babylone évidemment, c'est un peu une allusion, mais il y a cette croyance qu'on va pouvoir créer une espèce de gigantesque bâtiment via Internet dans lequel on aurait des salles avec toute la connaissance du monde et qu'on aurait accès à tout. Et il y a des gens qui travaillent sur des projets comme ça. Moi, au ministère, j'en connais. Ils travaillent sur l'indexation très fine. Mais il y a aussi des gens qui croient que on arrivera à résoudre tous les problèmes quand on aura accès à toutes les informations. Et ce n'est pas forcément vrai. Tous les jeunes ne sont pas là-dedans, mais il y en a certains qui vraiment s'imaginent que moi, quand j'ai... Donc maintenant, j'ai la main qui tient le téléphone, là j'ai le monde dans la main, parce que j'ai accès à toute la connaissance du monde. Le rapport à l'avenir, donc là j'ai rappelé la pensée complexe d'Edgar Morin. Donc lui il dit, mais en fait nous, l'école, on n'est pas là pour servir des intérêts commerciaux, on est là pour préparer des jeunes qui seront des citoyens, qui vont exercer des métiers, mais des métiers qui n'existent pas encore, pour résoudre des problèmes qui n'existent pas encore, à l'aide de technologies qui n'ont pas encore été inventées. Et quand on se pose des questions sur les OGM, sur la santé liée aux ondes, etc., on voit bien que ce que nous, on a appris en physique, en terminale, c'était quand même assez limité, quoi. Alors moi, je connais un peu la photosynthèse, mais quand on me parle d'OGM, j'ai du mal à mobiliser mes connaissances. Et du coup, les jeunes, ils sont conscients de ça et ils se projettent plus du tout de la même façon dans l'avenir. Et quelque chose qui a été rompu, c'est ce que j'ai mis avec un point d'interrogation comme héritage judéo-chrétien, c'est l'idée que j'investis maintenant pour avoir un héritage plus tard. J'investis dans mes études pour plus tard avoir une situation. Je rentre dans une entreprise, je fais ce que le patron me demande parce qu'un jour j'aurai une promotion. Toujours cette idée d'investir pour plus tard. Et les jeunes, nous, ils sont beaucoup plus dans le temps présent. Il y a beaucoup moins d'anticipation dans leur façon de travailler. Et au contraire, tellement ils n'anticipent pas, ils ont plutôt un sentiment d'urgence. Parce qu'ils sont constamment sollicités par une pub, par un SMS, par un agenda, par un machin, etc. Leur téléphone zoome en permanence. Parce qu'il y a bien toujours quelque chose qui se passe, quelque part. Ces choses ne sont pourtant pas très, très importantes et c'est souvent ce que Dominique Angers appelle des banalités chronophages. C'est extrêmement banal, on s'investit quand même dedans, mais en fait, ça prend juste beaucoup de temps. Et il y a dans l'étude UI Kids Online, plus de 30% des enfants qui disent qu'effectivement, ils ont souvent perdu du temps sur Internet, mais qu'ils n'avaient pas forcément réussi à diminuer leur consommation. Et toujours dans cette idée d'immédiateté, il y a le fait de brader sa vie privée pour un service rendu facile et immédiat. Alors ça me faisait penser à l'autre qui avait dit « mais moi je veux une soupe là, tout de suite j'ai faim ». Et l'autre lui dit « d'accord, mais tu me donnes ton droit d'aînesse ». Il a dit « bon, d'accord, mais j'ai faim ouais. ». Et moi ça m'est arrivé par exemple avec des applis Android. J'étais dans une conférence, quelqu'un projetait des diapos que je trouvais plutôt intéressants. J'ai voulu le prendre en photo, sauf que mon téléphone il fait « Et du coup, je me suis dit, c'est un peu gênant de prendre une photo, tout le monde va la savoir, etc. Donc, je vais sur la Google Store, et je trouve une caméra qui ne fait pas de bruit, je la télécharge, et au moment de la télécharger, je dis, ah, attention, par contre, si tu me télécharges, moi, je veux avoir accès à tes données, à ta connexion Internet, à tout ton contenu, etc. Alors, je me suis dit, oh, c'est un peu scandaleux, pourquoi il a besoin de mon carnet d'adresse pour prendre des photos? Et j'ai dit, ok. Alors après, j'ai désinstallé l'application parce que je trouvais ça scandaleux, mais entre-temps, il avait déjà tout. D'accord? Je ne peux plus revenir là-dessus. Et on est très souvent sur ce côté-là, on est dans l'immédiateté. Tu veux un service, il est là, il est bien, mais tu me donnes quelque chose en échange. Voilà, donc une question un peu pour la suite. Donc ça, c'est l'exemple. Hein. Donc là, j'ai Proverbe 8, verset 8. Et en dessous, j'ai de la pub qui défile en permanence. D'accord? Donc c'est bien, j'ai un outil qui va me permettre de méditer. mais c'est une méditation qui n'est pas gratuite. Ça, c'est un autre exemple de YouTube. Je fais du violoncelle, donc je tape dans la recherche forêt violoncelle, parce que je suis en train de travailler un morceau comme ça. Et il me propose en lien numéro 4, Digital Literacy Using Technology in the Classroom. Ça n'a rien à voir. Pourquoi il me propose ça? Parce que, ben, avec mon compte ouvert, dans la journée, j'avais préparé la diapositive, donc j'avais regardé d'autres conférences, et lui, hop, il a fait le rapprochement. Donc rien à faire. Alors, je ne m'attarde pas sur le modèle économique, etc., mais ça pose quand même un certain nombre de questions. Je pense que c'est intéressant de décortiquer ça aussi avec nos élèves. Un autre exemple, il y a un service que je trouve très très bien, mais si jamais j'ai un problème, je devrais résoudre ça en contentieux à la cour du district de Fukuoka, donc tout en japonais. Donc en clair, j'accepte le service comme il est. Le jour où il y a un problème, je n'irai pas au Japon juste pour dire je ne suis pas content, vous avez fait un truc avec mes données. Hein, je serai en difficulté en tout cas pour aller jusque-là. Parce que généralement, ils ne payent pas le transport, et on se débrouille quoi. Mais j'ai pris le service quand même, parce que j'étais dans ce besoin immédiat et j'avais besoin d'avancer. Quelques réflexions pour terminer. Est-ce que c'est de la continuité ou est-ce que c'est de la rupture? C'est un peu un débat en ce moment. Et puis après, quelques perspectives. Donc Facebook, plus de 20 millions d'utilisateurs. Alors on ne sait pas, tous les comptes ne sont pas allumés. Il y a des comptes fantômes, hein, comme moi sur Flickr, etc. Mais là où au départ les gens disaient oui, c'est tout nouveau, les sociologues maintenant ils disent non, en fait c'est plutôt une continuité. Ce besoin de relations sociales, c'est quelque chose qui était déjà dans la société. Facebook a surfé sur un besoin fort, mais le web social, le web était social avant Facebook. Voilà. Donc il y a plutôt un consensus sur la continuité, même si évidemment c'est assez, on va dire, en débat en ce moment. Le décalage entre les pratiques numériques et les institutions, là, on est vraiment sur de la rupture. Et Michel Serres, il compare ça à la rupture de quand l'écrit est arrivé, puis ensuite l'imprimerie. Au départ, il y avait un message qui était sur un support. Le support, c'était sa tête. Donc, on avait de la mémoire. Ensuite, le support, il était écrit. Après, c'était tous les livres. Et maintenant, c'est l'ordinateur. Et on se rend compte qu'il y a un décalage, et notamment au niveau juridique, par exemple. Quand j'envoie un mail, est-ce que c'est juridiquement valable ou pas? Et les juristes ont mis beaucoup de temps à se rentrer dans la technologie pour dire, finalement, un mail, on l'accepte, le fax, on l'accepte, le mail, non. Puis après, on dit, le mail, on l'accepte, mais il faut qu'il soit chiffré. Enfin, c'est très compliqué. Et de la même façon, nous, dans l'école, entre l'institution et les usages numériques, il y a un décalage. Il y a un décalage. On peut pas constater autre chose que le fait qu'il y a un décalage. Ce qui est nouveau aussi, c'est que les frontières entre la vie privée, la vie professionnelle, la vie publique, elles sont en train de s'émousser. Et qu'il y a des sphères, mais qui s'interpénètrent. Quand j'ai fait un site web avec tous mes cours pour mes étudiants, à un moment donné, je ne sais plus si j'étais dans du professionnel, dans du privé ou dans du public. Parce que le site était vraiment ouvert à tout le monde. Alors, sur la page d'accueil, j'avais écrit « Si vous n'êtes pas étudiant, vous n'avez rien à faire ici ». Ça n'a jamais découragé les gens de télécharger mes cours. Et d'ailleurs, je pense que le site existe encore. Il y a encore toujours des gens qui vont dessus, alors que je ne l'ai plus mis à jour depuis 4 ans. Mais voilà, ça ne me dérange pas. Mais du coup, ce qui était au départ professionnel est devenu public. Il y a aussi un autre constat, c'est que la plupart des phénomènes online trouvent une analogie dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'il y a assez peu de phénomènes informatiques qui sont vraiment complètement nouveaux. Il y a des formes nouvelles, mais la concurrence de relations entre les proches et une communauté distante, ben, on peut la voir parce qu'il est sur Skype et qu'il veut être avec ses copains. On pourrait aussi imaginer qu'il veut être avec ses copains et jouer au foot. Ou être, enfin, cette concurrence entre ben, tu es à côté de moi, je veux une relation de 1 à 1, et l'autre qui dit non, mais en fait, tu es à côté de moi, d'accord, je t'aime bien, mais moi, il y a plein de gens que j'aimerais aussi consulter. C'est quelque chose qui a toujours été. L'exemple du copier-coller, on reproche souvent à nos élèves de faire du copier-coller sur Wikipédia, de ne pas citer leurs sources, etc. Quand on prend des thèses, souvent, les trois premiers chapitres, c'est des citations, il y a une bibliographie comme ça, et on se demande, mais pourquoi ils n'étaient pas capables de penser par eux-mêmes? Pourquoi ils citent autant de gens? Donc c'est pareil, c'est des choses qui ne sont pas complètement nouvelles. Alors pour terminer, y a une question qui me paraît essentielle de poser en ces termes-là, c'est une balance de droits. Il y a les droits, le droit à l'oubli, on en parle beaucoup, et à l'autre côté, ici, il y a le devoir de mémoire. Et ça n'est pas compatible. Je ne peux pas à la fois dire ben, tout le monde a le droit d'écrire un truc, de changer d'avis et de l'effacer, et d'un autre côté dire il y a un devoir de mémoire, quelque chose qui s'est passé, quelque chose qui a été dit, il faut que ça soit enregistré pour les générations futures. C'est en tout cas deux choses qu'il faut arriver à articuler. Le devoir de mémoire, ça va avec le droit à la recherche historique. Le droit d'expression et le droit à l'information conditionnent l'exercice de la démocratie. Le droit à l'information conditionne aussi la plupart des hypothèses économiques. Quand on dit la loi de l'offre et de la demande, c'est bien parce qu'on estime que le consommateur va être suffisamment bien informé pour pouvoir faire des bons choix de consommateur et que l'ensemble se régule. Et donc, si jamais Google, à un moment donné, vient fausser l'information, c'est tous ces trucs-là qui ne vont plus fonctionner dans la société. Dernière pensée, l'homme délègue à des machines, et ça, je pense que c'est vraiment un mouvement de fond. Quand je boite, je prends des béquilles. Quand j'ai mal aux pieds, je mets des chaussures. Et quand ma mémoire flanche, ben, je m'achète des bouquins. Quand j'arrive plus à les lire parce que j'en ai trop, à mon nez, je les mets dans l'ordinateur. Et du coup, la mémoire de l'ordinateur, c'est une béquille pour que l'homme puisse se concentrer sur d'autres choses qu'il estime plus importantes à un moment donné. Sauf que l'ordi stocke des images, mais il n'a pas d'imagination. L'ordinateur stocke des processus, des raisonnements éventuellement, mais il ne peut pas innover. Et donc du coup, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'on délègue à l'ordinateur et qu'est-ce qu'on veut à tout prix garder? Et pour moi, on ne peut pas déléguer ni la pensée, ni la méditation, ni l'imagination, ni l'innovation. Par contre, ce qu'on peut déléguer, c'est une partie de la mémoire, en veillant bien que ce qu'on donne à l'ordinateur, on sera toujours capable de le récupérer. Et ce n'est pas forcément évident sur Internet. Ce que je mets sur Internet, ça ne va pas forcément ressortir quand je fais ma recherche sur Google. Donc, il y a bien d'autres choses à créer. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire. Donc, là, tac. Donc dans le rapport à soi, ce qui change au niveau de la relation pédagogique, pour faire un très bref retour, c'est le fait que les règles doivent constamment être rappelées et qu'on est en concurrence avec des services qui viennent happer la concentration. Et donc, cette concurrence, il faut arriver à un moment donné à la gérer. Et c'est vraiment difficile. Dans le rapport aux autres, on se rend compte que le poids des pères a plus d'importance dans le développement de l'enfant que la relation avec les enseignants. C'est probablement moins vrai dans le primaire que dans le secondaire. Pour le rapport au savoir, ben, j'ai parlé un petit peu de l'illusion de savoir et de se dire ben, si je trouve l'info, j'ai tout compris, alors qu'en réalité, ça n'est pas vrai. Dans le rapport à l'avenir, ben, c'est un positionnement plus qui va influencer la motivation dans les études, parce que l'élève, il a envie de faire un exercice, de comprendre tout de suite et d'avoir des félicitations. Alors que nous, on aurait envie qu'il s'investisse dans la durée, que quand il vient à l'école, c'est pour préparer son avenir. Donc, c'est une autre façon de mettre les choses en perspective. J'étais un peu bavard, mais je vais écouter vos questions.
Okay. Alors,
Où est-ce qu'on...
Je décide et je change un peu le programme. Donc, on va, parce que là, on a déjà dépassé un petit peu. On va avoir 7-8 minutes de questions.
Ouais.
Ça m'a été beaucoup plus. Après, on va faire petite. On va raccourcir un petit peu la pause. On ne reprend pas à 11h15 et non pas 11h. Parce que c'est un peu dommage qu'il n'y a pas un petit moment de questions. Donc, on va dire des questions précises, des réponses précises.
D'accord.
Vous confectionniez pour avoir un maximum de gens.
Ouais.
Je voulais juste dire pour ceux qui aiment les livres que Serge Tisseron a écrit un bouquin qui s'appelle Virtuel mon amour. Mm-hmm. Et sinon, il y a un problème quand même qui se pose par rapport à l'utilisation d'Internet et des connaissances que les élèves peuvent acquérir par eux-mêmes. Ce qu'il est dans l'air, ça a déjà été fait, qu'au lieu que le prof fasse son cours et après on voit ce que les élèves en font, c'est que les élèves, la semaine prochaine on dira telle chose et que les élèves étudient par eux-mêmes le sujet et ensuite le prof intervient. Donc évidemment, dans ce cadre-là, Internet va être extrêmement utilisé. Et moi, je trouve ça complètement stupide parce que, bien sûr, l'élève doit construire son savoir, mais anticiper comme ça, avec toutes les abris qu'il y a sur Internet, je trouve ça dangereux. C'est une inversion totale du rapport avec les élèves.
Ouais. Alors,
les élèves ne doivent pas faire des recherches, mais considérer que le cours, on doit totalement inverser l'ordre, je trouve ça complètement dangereux.
Alors, c'est la mode de ce qu'ils appellent les flipped classroom, donc la classe inversée.
Ouais.
Par contre, l'idée, c'est pas de dire allez sur Internet, faites votre savoir et revenez.
Qu'est-ce qu'ils vont faire, les élèves ?
L'idée, là, c'est vraiment de dire voilà, je mets à disposition un cours, vous allez bosser sur mes matériaux, et après, on en discute. Hein, alors, après, que les élèves aillent voir ailleurs, pourquoi pas. C'est une mode qui a été, enfin c'est pas une mode, le terme n'est pas bon, mais c'est quelque chose qui a été testé sur des étudiants de Harvard il y a déjà 15 ans en arrière, et le prof s'était rendu compte que quand il faisait des cours de physique à des étudiants de Harvard, donc qui payent cher, qui sont quand même plutôt bien formés par ailleurs, quand ces étudiants font des tests sur des problèmes de mécanique de tous les jours, ils avaient les mêmes résultats que des gens dans la rue. Et donc, il s'est dit, mais c'est juste pas possible. Et donc, il a décidé de complètement changer sa méthode pédagogique. Et donc, lui, effectivement, il donne un poli, il donne des exercices, il donne des choses à faire à la maison. Et quand il arrive en classe, il pose des questions, il projette des questions. Il dit, ben voilà, j'ai une voiture qui rentre dans un camion. Les forces sont comme ci, comme ça. Est-ce que la force que la voiture exerce sur le camion est plus importante, égale ou moins importante que la force que le camion exerce sur la voiture? Il pose cette question. Mais bon, il a tout un type de questions. Et alors, selon le taux de réponse, si jamais globalement tout le monde a bien répondu, il dit bah, « c'est bon, vous avez compris, j'avance ». Si jamais les gens ont globalement pas du tout compris, il dit bah, « j'explique ». Et si jamais il y a entre 30 et 70% de bonnes réponses, il ne donne pas la bonne réponse, il dit « discutez-en entre vous ». Et il a constaté que l'immense majorité des changements d'avis vont toujours dans le bon sens. Et il en déduit que les élèves qui avaient compris expliquent à ceux qui n'avaient pas compris, que la relation entre pairs se fait bien, celui qui avait compris augmente en expertise, celui qui n'avait pas compris a une explication personnalisée. Et quand il a fait ça pendant plusieurs années, il se rend compte que globalement, sur des tests de physique standardisés, validés par la recherche, etc., le niveau de ses étudiants est bien meilleur qu'avant. Donc ça, c'est un exemple de scénario. Mais par contre, c'est complètement scénarisé et c'est aussi la mode des MOOC. C'est-à-dire qu'on ne dit pas chercher sur la gestion de projet des choses sur Internet. C'est vous allez sur Internet, vous regardez cette vidéo-là. Après cette vidéo-là, vous faites cet exercice-là. Si vous réussissez cet exercice-là, vous allez là, etc. Et donc, c'est vraiment scénarisé de façon très, très fine. Mais quand les gens arrivent en classe, bah, le prof, il a une vision de ce qui a été fait et il est censé. Je ne l'ai pas fait. Enfin, j'ai fait des choses semblables en 99 avec des étudiants. Ça m'avait bien plu, mais en tout cas, je ne veux pas généraliser mon expérience. Il est censé se concentrer vraiment sur les difficultés, sur les problèmes de compréhension, etc. Après, si jamais on pervertit le système, ben effectivement, ça ne marche plus du tout, quoi. Mais il y a un équilibre à trouver. Pardon.
Je suis en master de recherche et on m'a demandé de faire des travaux de bibliographie, justement. De données, trouver des articles, etc. Je suis en Master 2 et j'avais aucune idée de comment est-ce qu'on cherchait, où est-ce qu'on cherchait, etc. Est-ce que c'est prévu que les enseignants enseignent aux étudiants comment faire des bibliographies qui sont justement sérieuses, à faire avec des références, chercher des noms qui sont pas genre un père qui a juste écrit ça comme
tout
ça.
Tout à fait, ouais. Alors normalement, c'est dans le programme de M1. C'est dans le programme de L1, ça fait partie des compétences des documentalistes en lycée-collège d'apprendre ça aux enfants, et ça fait partie des choses qui sont travaillées dans le cadre du B2I. Maintenant, après, on peut passer entre les mailles du filet, et c'est vrai que les compétences de recherche, elles doivent aussi s'adapter au fur et à mesure. Mais c'est dans les textes. Après, ce qui est compliqué, et c'est un peu le problème de tout ce qui est informatique, c'est que le ministère a fait un choix quelques années en arrière. Est-ce qu'on peut couper le micro quand je parle des ministères? Non, mais donc il a dit, ben voilà, il faudrait. Non, mais tu couperas. enfin, c'est comme ça que j'interprète en tout cas les décisions. Créer une matière enseignement de l'informatique, c'est compliqué. Il faut créer des concours, une agrégation. Il faut définir des savoirs disciplinaires, etc. Donc, on va faire autrement. On va dire l'informatique, c'est l'affaire de tous. Et quand c'est un truc et à tout le monde, des fois c'est un peu à personne, quoi. Alors ils ont été ambitieux, mais voilà, ça n'a pas été implémenté de façon homogène sur le territoire. Et donc à certains endroits, effectivement, les compétences de recherche sont mal enseignées ou trop peu. Ouais. Par contre, il y a une prise de conscience qui est faite à ce niveau-là.
Alors moi, je suis professeur documentaliste, donc la formation, le traitement de l'information, l'apprentissage de la recherche documentaire. On va dire que c'est ma partie, donc c'est un enjeu de tous les jours. Alors juste un petit témoignage personnel, je travaille beaucoup avec les troisièmes sur la recherche dans le cadre du B2I.
D'accord.
Et depuis 2 ans, je travaille particulièrement sur Google. Puisque vous avez beaucoup parlé de Google. Et en fait, le problème de Google, c'est que, en réalité, c'est un peu comparable à la proportion d'eau potable qui est accessible à l'être humain. C'est qu'en fait, toute l'information qui est accessible via Google, en fait, correspond à très 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 peu de choses. Et souvent, quand vous cherchez une donnée très précise, il va vous donner certaines références, mais en fait, c'est bien différent d'un fichier de bibliothèque qui sert de point de départ basique à une recherche plus approfondie. Et en fait, selon le doc de Google, si ce n'est pas sur Google, ça n'existe pas. Parce qu'en fait, ce que fait Google, il photographie des données partout, il les stocke, et puis vous, quand vous faites une requête, il va chercher chez lui s'il a pas. Mes élèves pensaient qu'il allait chercher ailleurs, il allait demander à un pote, si je puis dire. Mais en fait, Google ne fait pas ça. Il dit « je ne l'ai pas, donc ça n'existe pas ». Donc, il faut être très conscient quand on cherche Google qu'en fait, on trouve des choses si on y met bien des choses. Par exemple, quand vous avez témoigné au départ, si on fait des recherches sur vous, sur Google, si on vous googlise, on trouvera des choses. En fait, on trouvera des choses parce que, d'une certaine manière, vous avez bien voulu qu'on
trouve
des
choses. Bien sûr.
Pour finir, un autre témoignage personnel, j'ai fait venir un journaliste pour parler avec mes élèves de 5e et 4e. Et mes élèves ont voulu chercher sur lui, ils n'ont rien trouvé, à part une donnée, que comme quoi il avait gagné une bourse, etc. Mais ils n'ont jamais su sur internet qu'il avait un petit garçon, qu'il était marié ou en couple, quel était son âge, quelles étaient ses études, etc. Ils n'ont rien trouvé, rien, à part cet article sur la bourse. Voilà.
D'accord. Mais effectivement, on ne trouvera pas tout sur moi non plus.
Et donc, je leur donne souvent d'autres moteurs comparés qui ne se basent pas que sur Google.
Ouais. Alors, ce que je disais au début, c'est que je ne voulais pas faire un catalogue de bonnes pratiques parce qu'il y a d'autres moteurs, etc. Mais après, si je rentre dans tous les outils, on ne s'en sort pas. Je voulais plus avoir une réflexion un peu générale. On a fait les 8 minutes.
Je crois que, malheureusement, on peut continuer à discuter comme ça. Donc, on a 10 minutes. Non, 1 minute. Vous prendre un petit café. Il y a des petits gâteaux offerts par le magasin commercial Equitéo, par de Paris, que notre église a mis en place. Donc, il y a des petits gâteaux du commerce équitable.
Je te laisse éteindre.